Éphésiens 4, verset 11. Écrivez ça, s'il te plaît. Éphésiens 4, verset 11. Parce que la formation de John Maxwell s'est basée sur des versets comme ci, comme cela. C'est le Seigneur a donné des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des prophètes. Pourquoi? Pour former ou pour équiper le corps du Christ. Alors, il y a des gens qui ont été appelés pour pasteur, prophète, apôtre, docteur, évangéliste. Pour faire quoi? Pas pour faire le ministère, mais pour former les saints. Les saints ou saintes? Les saints. Pour faire le ministère. Alors, notre but et notre vision pour l'Église, ça devrait être, je suis venu ici pour vous former, pour que vous fassiez, vous trouvez votre ministère et vous faites le ministère à travers la ville de Las Vegas. Alors, je suis arrivé là, j'ai dit, je ne suis pas votre papa, je ne suis pas votre conseiller, je suis un équipeur de leaders qui vont changer le monde. Oh, il était fâché contre moi. J'ai reçu des critiques et des critiques. Non, 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 tu as une maîtrise en psychologie, tu devrais nous aider. J'ai dit, non. Moi, je suis venu ici pour vous équiper. Pour que vous faites. On aurait plus d'impact dans la ville de Las Vegas si je vous équipe et vous faites cet ministère. Et 2 Corinthiens 5, on a basé ça sur vraiment deux versets. Éphésiens et 2 Corinthiens 5, 14 à 21. C'est le ministère de réconciliation. Alors, ce ministère de réconciliation, c'est vraiment, vous êtes appelé à un ministère de réconciliation. Il y a le message de réconciliation et aussi des ministères. On était appelé à un ministère de réconciliation. Tout le monde dans l'Église. On est appelé à former des leaders qui vont réconcilier leur monde. Alors, avec une Église de 200, j'ai plus d'impact sur Las Vegas si je leur dis, je vais t'équiper, je suis appelé à t'équiper, à te former et toi, tu vas changer le monde. Non seulement tu n'as pas le crédit, je ne veux pas avoir le crédit pour changer le monde. Je veux que mon église aille le crédit. Je veux que les gens, il n'y a pas de ministère de Paul Goulet. Je ne suis pas venu ici pour bâtir le ministère de Paul Goulet. Vous allez regarder sur l'internet, il n'y a pas de ministère de Paul Goulet. J'ai le ministère d'équiper les gens pour changer le monde. Je suis appelé à vous former et je ne viens pas comme un expert. Je viens comme un homme moi, j'ai fait tellement d'erreurs, je pourrais passer 2 jours simplement à vous compter mes erreurs. Je ne suis pas un expert. Mais qu'est-ce que je suis? Je suis quelqu'un qui a reçu beaucoup, beaucoup d'aide, des gens comme John Maxwell et d'autres personnes qui m'ont aidé à être formé pour former les autres. C'est ça notre vision, comme Philippe a bien décrit. On veut vous aider à être formé et vous allez former les autres. Qu'est-ce que je recommande? Dans 6 mois, quand on revient, amène au moins 2 ou 3 personnes de tes leaders avec toi pour cette formation. C'est ça que je faisais à mon église. J'allais à Tommy Barnett. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de Tommy Barnett. J'allais à la conférence de pasteurs, mais j'amenais au moins 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 leaders pour être avec moi. Formation de Maxwell. Toutes les formations dont j'ai été à travers, j'amenais mes amis avec moi. J'ai une équipe maintenant à notre église. Parce qu'on est allé de 200 personnes. Maintenant, tous les semaines, dimanche, on a 5 à 6 000 personnes à Las Vegas qui vont à nos cultes. Vous dites, t'es-tu fou? Non, je ne suis pas fou. On a équipé des leaders parce qu'ils vont faire plus d'impact dans notre ville. Alors, nous, comme pasteurs et leaders, si on forme, comme Jésus a fait, quoi? Il a formé les 12, comme on le sait. Il a formé les 70. Et après qu'il les a formés, c'est eux qui ont changé le monde. C'est ça notre vision ici avec la formation de John Maxwell. Alors, je vais vous aider à vraiment simplifier et il y aurait des temps de questions plus tard, il y aurait des temps de discussion entre groupes. Alors, laisse-moi, je vais juste commencer et on va voir qu'est-ce que le Saint-Esprit fait. Alors, Saint-Esprit, je te remercie pour ton aide. Sans ton aide, je ne peux même pas communiquer. Sans ton aide, je peux pas communiquer qu'est-ce que tu as fait dans ma vie et la vie de notre Église et qu'est-ce que je crois avec tout mon cœur que tu veux faire ici en France. C'est mes frères et mes sœurs. Notre source, c'est français. Les Goulets viennent de Normandie. Alors, Seigneur, je reviens à mes sources et je te demande de m'aider d'être un simple outil pour toi, pour toucher mes frères et mes sœurs ici, en France. Et je demande ça dans le nom de Jésus. Amen. Et j'aimerais signaler que les gens me demandent souvent, Il y a un journaliste d'un journal de la France ici, j'ai oublié le nom de ce journal-là, mais ils m'ont demandé et qu'est-ce que tu penses des Français chrétiens? Elle voulait entendre des réponses critiques. J'ai dit, mais elle dit, c'est quoi ton opinion des Français, des chrétiens français? J'ai dit, oh, je suis très impressionné. Elle dit, quoi? Moi, je pense que c'est le pays où le réveil, probablement, ça va être la prochaine place où le réveil éclate. Dans mon esprit, je ne serais pas ici si je ne croyais pas ça. J'ai deux places à aller. Moi, je crois que le Seigneur a la main sur la France. Parce que vous êtes cette porte, cette seuil pour la francophonie, pour l'Afrique et les Français à Guadeloupe. Je viens juste d'être là. Alors, je crois vraiment que le Saint-Esprit a la main sur vous. Alors, moi, je n'ai pas de critique sur la France. Je n'ai pas de critique sur les Français. Je viens ici simplement comme un ami. OK, on commence maintenant. On a déjà commencé, mais... Être fait à l'image de Dieu signifie que nous avons été créés pour diriger et être des leaders. On est appelé à diriger et être des leaders. C'est clair. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant ici en France. Quand les gens se soulèvent comme leaders, souvent sont critiqués. Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a... C'est exact l'impression ou... Il me semble, c'est ça que j'ai goûté un peu depuis les 5 ou 6 ans que je suis ici, qu'il y a un peu l'esprit critique contre les gens qui essaient d'être un leader. C'est comme, tu te prends pour qui, toi? Hein? Non, on est tous les pasteurs ici. Tu te prends pour qui? Tu as des visions? Moi aussi, j'entends de Dieu. C'est comme le moment que tu essaies d'être le leader que le Seigneur t'appelle à être, tu es confronté par des gens. T'es confronté même comme un esprit critique ou un esprit tellement indépendant qu'ils ne veulent pas de leader. Il y a même des Français qui m'ont dit, quand tu commences à vraiment être un bon leader, les gens essayent de couper la tête. Ça, c'est pas moi, c'est un Français qui l'a dit. Deuxièmement, Dieu donna aux autres humains l'autorité sur la terre. Le verset Genèse 1, 26. Est-ce qu'on peut lire ensemble? C'est juste là. Est-ce qu'on peut lire, Philippe et tout le monde? Dieu dit, faisons l'homme selon pour qu'il... Même en Luc chapitre 10, vous avez vu le verset, je te donne toute autorité. Même, j'écris un livre, je ne sais pas si on a des copies là, le livre c'est les 5 puissances de Dieu. Et c'est en français. Je faisais une étude sur le mot puissance en anglais. Et je me suis dit, tout le monde sait, c'est dunamis. Mais j'ai été surpris un jour quand je faisais une étude biblique en grec, j'ai découvert qu'il y avait actuellement 5 mots qu'on pouvait interpréter comme le mot puissance ou pouvoir. Exousia était le plus commun. Je ne le savais pas. Je ne savais pas. Exousia, ça veut dire l'autorité déléguée. Alors, ici, on voit le terme autorité. Et c'est dans le Nouveau Testament, c'est le terme le plus commun. Le Seigneur veut nous donner l'autorité déléguée pour être un leader. Le deuxième mot le plus commun, c'est dunamis. C'est la puissance de miracle. La puissance de voir les gens touchés, de voir les gens changer. Le troisième mot, c'est énergia. Énergia. Ça veut dire, on dérive le terme énergie. Est-ce que vous êtes déjà rentré dans un culte et tout à coup, vous avez senti une sorte de... l'énergie. Wow! Je le sens quand j'ai rentré ici avec tous les leaders ici. J'ai senti quelque chose. Il y a une énergie, une attente pour qu'est-ce que le Seigneur va faire ici dans les prochains 3 ans. Troisièmement, si Dieu nous appelle à être leader, nous avons donc la capacité de l'être. On va étudier les juges ici aujourd'hui, la première session. Et c'est tellement commode parce que récemment, j'ai fait une étude profonde sur Gédéon. Et j'aime les paroles de l'ange qui a visité Gédéon. Vaillant héros! La première fois que je parlais en français, que je fasse une formation ici. J'ai fait la mauvaise conjugaison et j'ai dit, « Oh, Valiant, zéro! » J'ai dit, « Vous êtes des zéros! » Les gens ont dit, « Non, c'est pas des zéros, c'est des héros. » »« Oh, je m'excuse! » Quand je vais visiter des pays, souvent je fais des erreurs parce que j'aime ça apprendre des langues différentes. Puis quand je suis aux Indes, je veux apprendre un peu de l'hindou. Alors, la dernière fois j'étais là, je voulais dire, oh mes amis, j'avais tellement hâte de vous voir parce que j'avais vraiment même hâte de manger un peu de... Parce que quand tu parles du fait que tu manges leur nourriture, ils aiment beaucoup ça. Alors, je veux connecter avec eux autres. Alors, j'ai simplement dit, il y a quelque chose avec les Indiens, c'est une sorte de pain qui appelle, c'est des naans. Vous connaissez ça? Vous avez ça aussi en France? Naans, c'est une sorte de pita, pain pita. Mais j'ai utilisé le mot, pas naans, j'ai dit nuns. Et nuns, ça veut dire des sœurs. Alors, il y a beaucoup de gens aux Indes, parce que c'était une ancienne colonie britannique, ils comprennent beaucoup l'anglais. Alors, j'ai dit, j'avais tellement hâte de trouver des sœurs chaudes. Non, c'est vrai, parce que j'aime ça quand c'est chaud, hein? Mais j'ai dit le mauvais mot, j'ai dit sœurs, comme des sœurs catholiques. Alors, je cherchais des sœurs chaudes ici. J'avais tellement hâte de vous voir, de trouver des sœurs chaudes. Quand je les trouve, ces sœurs chaudes-là, je vais mettre la confiture. C'est vrai. T'aurais dû voir les gens. Ils faisaient ça. Ah! Les gens couvraient leur sang. Ah, non, 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 non! Plus tard, l'après-midi, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Les gens riaient tellement de moi. J'aime ça quand ils rient, mais je ne savais pas pourquoi. Ils ont dit, c'est parce que quand tu disais ce mot-là, ça veut dire actuellement des sœurs. Et quand tu as dit ça, ils pensaient que tu parlais des sœurs catholiques. Tu cherchais des sœurs catholiques qui étaient très chaudes, tu allais mettre de la confiture dessus. C'est pas bien ça, Paul. Ah, je m'excuse. Et c'était sur l'Internet aussi. Ils l'ont mis sur l'Internet, alors le jour après, il fallait que je m'excuse. J'aimerais demander pardon à toutes les sœurs qui nous écoutaient hier. Je voulais pas vous parler contre vous, je m'excuse. En tout cas, on a la capacité. Oh, des fois, on sent pas qu'on a la capacité. Oh, il y a trop de résistance ici en France. Il y a trop de résistance à Las Vegas. On sent qu'on n'a pas cette habilité-là. Souvent, on voit tous nos problèmes et pas notre capacité. Je me rappelle qu'est-ce que l'Éternel a dit à Gédéon après. Va dans la force que tu as. Il n'a pas dit, je vais donner plus de force, Gédéon. Il dit, tu l'as déjà, tu ne le sais pas. Tu l'as déjà et tu ne le sais pas. Une fois, je suis allé au Canada pour être un prédicateur, une conférence. Et moi, je vis à Las Vegas. Il y a 300 jours par année, c'est clair et le soleil brille. Je suis dans une belle... En point de vue de température, c'est très bien. Mais je suis arrivé au Québec au mois de janvier, je pense. Il faisait froid à peu près 20 en dessous de zéro Celsius. 20-25 en dessous de zéro. Il faisait très froid. J'ai loué une voiture et j'ai loué un Volvo. Et dans le Volvo, il y avait des chaises en cuir. Est-ce que vous êtes déjà assis sur les chaises de cuir gelées? Chaises en cuir. J'ai rentré dans la voiture. Le moment que je me suis assis sur ces chaises-là, j'avais tellement froid. Puis, il faisait tellement froid. J'ai conduit pour peut-être 15-20 minutes et après 15 minutes, ça commençait à réchauffer un feu. Mais tout le temps, j'étais là. J'ai froid. 2 jours, 3 jours. J'étais le prédicateur, je sors de là, je suais parce que j'ai beaucoup de passion quand je prêche. Et je rentre dans la voiture, toute mouillée, je rentre sur les chaises gelées. C'est comme une bloc de glace. Je me suis assis là encore une fois. Ah! Après 3 jours, j'ai vu un petit bouton qui était comme ça. Il y avait des petites lignes dessus. C'était des réchauffe-sièges. Pour 3 jours, j'ai souffert. J'aurais pu pousser le piton pour me réchauffer les fesses. On a le droit de dire ça ici? OK. Va dans la force que tu as. J'ai pas de force pour être un leader en France. Oui, vous l'avez déjà. Les Français sont émerveillés quand je dis, oui, il y a une réveil qui a déjà commencé ici. Ils disent, non, Paul, France, on est habitué à déjà critiquer la France. Non, moi, j'aime la France. Paul, mais les Français sont durs. Non, j'aime les Français. Tu as simplement besoin de les aimer. Tu as simplement d'être tellement convaincu de des visions de Dieu sur ta vie. Tu es un leader. Et c'est toi. Attends-toi pas que les Français t'acceptent. C'est toi qui prends l'avance. C'est toi le leader. C'est ça la philosophie de Jean. Et c'est ça ma philosophie. Récemment, j'étais sur un avion. Je prenais l'avion pour venir ici. J'ai pris Air France. Et j'ai décidé que ce n'est pas les Français qui vont m'influencer. Parce que la définition de leadership, c'est l'influence. Pure et simple. Alors, j'ai décidé, c'est moi qui vais les influencer. Je vais les aimer tellement. Je vais être tellement positif. Je vais être tellement... Je vais tellement poli avec tout le monde. Je vais leur noyer avec l'amour. Je lance sur l'avion, puis je vois un des attendants. C'est quoi leur nom en français? Hôtesse? Hôte. Hôte et hôtesse. C'est un hôte de l'hôtel, de l'avion. Hein?
Steward et féminin.
Oh, steward! C'est un steward. Alors, je dis, bonjour monsieur, comment ça va? Il dit, bonjour. Il était un peu froid au début. J'ai dit, ça va bien? Il nous regarde. Il dit, tu viens d'où, toi? Du Québec. Alors, j'ai remarqué ton accent. J'ai dit, oui. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci. À chaque fois qu'il venait, je lui demandais des questions. Et toi, tu viens d'où? Merci, monsieur. Oui. Je lui parlais à chaque fois. Et à la fin, j'ai dit, as-tu déjà été à Las Vegas? Il dit, non. Ben, il dit, si jamais tu vas à Las Vegas, tiens, mon numéro de téléphone, tu m'appelles, je te traite pour... un dîner. Regarde comme si j'étais un fou. Mais tout, parce que ça prenait quoi, 8-9 heures de Chicago. Et je pense que c'était Chicago ce jour-là. Et en tout cas, on a parlé. À chaque fois qu'il venait me voir, j'étais gentil. Durant la soirée, tout le monde dormait, je ne pouvais pas dormir. Alors je monte, puis j'essaie de trouver une des toilettes. Alors j'ai trouvé une toilette, je suis sorti de la toilette. Et tout à coup, il y avait une autre hôtesse. C'est ça, hôtesse? Il y avait une hôtesse qui m'a vu sortir et elle a dit, tu n'as pas le droit d'aller dans la toilette de première classe. Elle était fâchée contre moi parce que j'ai utilisé les toilettes de première classe. Elle me chicanait. Je dis, je m'excuse, madame, je ne savais pas, j'ai besoin d'aller à la toilette. Je suis m'asseoir. Plus tard, la soirée, j'avais faim. Tout le monde dormait, moi j'avais faim. Alors j'ai su de ne pas aller tout droit, je vais en arrière pour aller dans le... Alors, je voulais pas aller dans première classe, je veux aller là. Alors j'ai tourné, j'étais allé vers l'arrière et tout à coup, c'est la même femme qui est là. Je dis, madame, j'ai faim. Elle me regarde comme si j'étais un démon. Puis tout à coup, le monsieur, le steward, que j'étais gentil avec, il tourne le coin. Puis il dit, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, je veux des fruits. Elle a dit, il n'y a pas de fruits. Puis lui dit, non, c'est pas vrai. On a des fruits pour les hôtesses et les stewards. Je vais lui donner. Elle dit, non. Il dit, oui, c'est un homme très sympathique. Elle dit, je le connais même pas. C'est vrai? Elle dit, je le connais même pas. Il lui dit, moi, je le connais. Et c'est un homme sympathique. On va lui donner des fruits. Alors, il sort les clés, il sort les fruits pour l'équipe. Il me le donne. Tiens, prends des fruits. J'en ai pris deux. Il y avait des chocolats incroyables qui étaient juste à côté d'elle. Et tout à coup, il dit, « Hey, donne-lui des chocolats aussi. » Regarde comme ça. Il dit, « Fallait. » Alors, je vais pour prendre le chocolat, elle dit, prends-en seulement une. C'est être le ciel, le sel et la lumière. J'ai souligné un des versets là, que votre lumière brille ainsi devant les hommes. Quelle lumière? Votre lumière. Est-ce que tu peux regarder ton ami et dites-leur, tu brilles dans mes yeux. Tu brilles dans mes yeux. Vous savez, le moment que vous avez dit ça, ton ami, la parole dit que nos paroles donnent la vie ou la mort. La mort. Vous venez juste de donner de vie. Les neurologistes récemment ils ont découvert que quand vous dites des choses positives, ça déclenche des produits chimiques dans tes neurones, les neurones, et ces produits chimiques-là t'aident à avoir la santé. Mais les mots critiques et les paroles négatives déclenchent des produits chimiques qui attaquent même votre santé physique. Il y a une recherche qui a été faite récemment sur le stress. Ils ont découvert que le stress non seulement détruit le corps, mais attaque le ADN. Et vous savez, votre ADN, c'est comme ça, hein? Et ils ont découvert que, et à la fin, c'est attaché, c'est les chromosomes et l'ADN est tout attaché juste là. Et qu'est-ce qui arrive avec le stress? Ça attaque comme une sorte de colle, mais c'est pas des colles, c'est pas de la colle, mais c'est quelque chose qui tient tes chromosomes et ton ADN ensemble. Et le stress vous attaque à votre niveau d'ADN. C'est incroyable. On peut donner la vie. On peut être des leaders qui est le sel et la lumière. Alors, avoir la permission divine de diriger. Moïse s'est senti incapable et non prêt ou non préparé à être leader. Vous avez déjà senti comme ça? Moi, oui. Des fois, on a peur. On a une crainte d'être leader. On a peur de prendre le leadership, de partager nos visions. On a peur du rejet. On a peur de l'opposition. On a peur de toutes sortes de choses. Alors, comme vous savez, vous avez peut-être prêché ça, il y avait plusieurs excuses que Moïse avait. Premièrement, qui suis-je? Peu importe qui tu es, je t'ai appelé et je suis avec toi. Qui suis-je? Regarde ton ami là et dites-le, tu es quelqu'un d'incroyable. Dites-le maintenant, tu es quelqu'un incroyable. Tu es quelqu'un incroyable, mon frère. Incroyable, incroyable. T'es super. T'es nickel. Incredible. Si vous êtes marié à quelqu'un, vous êtes assis à côté de votre femme, est-ce qu'il est déjà marié ici? Déjà marié dans la chambre? Votre femme est là, votre mari est là? Ça, c'est mauvais? La salle. Chambre, c'est quoi? Non! Un autre de mes erreurs. Alors, regarde, tous les hommes, regardez votre femme et j'aimerais que vous chantiez « Tu me fais tourner la tête ». Vas-y, vas-y. Tu vas déclencher des produits chimiques. Le seul pour moi, c'est toi. La 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 la. Qui suis-je? Paul a dit ceci. Je suis capable de tout faire par la puissance du Christ. Est-ce que c'était un homme plein de soi? Est-ce qu'il était orgueilleux? Ou c'était un homme qui savait qui il était? Hommes et femmes de Dieu ici en France, vous êtes incroyables. Vous avez des dons. Vous avez un appel. Valiant et héros, comme il a dit à Gédéon. Deuxième excuse. Qui es-tu? Une des choses que je fais tous les jours, je me réveille d'habitude vers 6h, 6h30, et on a un temps de prière à notre église, ou bien je vais là à notre temps de prière. On a acheté un bâtiment à côté d'une montagne, et on appelle ça la chambre haute à côté de la montagne de prière. Et tous les jours, il y a des temps de prière, tous les jours, tous les matins. On prie. Mais pour moi, ça commence vers 7h et je termine mon temps de prière vers 10h. Alors, tous les jours, je prie de 2 à 3 heures tous les jours. Je suis dans la parole, je mets mes écoutes musique. Souvent, je vais à un café parce que je ne veux pas être interrompu. Alors, je suis là avec mon ordinateur, mes études bibliques. Je suis là avec la parole et avec la musique des louanges à Jésus pour 3 heures tous les jours. Pourquoi? je veux connaître mon Dieu. Moi, je vis à Las Vegas, la ville de péché. On a passé des temps durs, spécialement dans les récessions maintenant. Alors moi, j'ai besoin de connaître mon Dieu. Amen. Qui es-tu? Qui es-tu? Troisièmement, troisième excuse. Et s'il refuse de t'écouter? S'il refuse, on a peur du rejet. On a peur d'être opposé. On a peur de qu'est-ce qu'ils vont passer les journalistes. Qu'est-ce qu'ils vont passer les Français. Qu'est-ce qu'ils vont passer les gens de Las Vegas. Quatrièmement, je n'ai jamais été un bon orateur. Oh oui, c'est ça que j'ai dit à Dieu quand il m'a appelé ici. Cinquième excuse. Je sais que tu peux trouver quelqu'un d'autre. Je dis ça quasiment tous les lundis. Quand le Seigneur m'a appelé à Las Vegas, j'étais pas un pasteur, j'étais un conseiller. J'ai dit, Seigneur, c'est la pénitence peut-être. Alors, il y avait même un de mes anciens qui prophétisait, tu vas être ici seulement pour 2 ans. C'est un bon début, hein? Quand un de tes anciens dit, oh, j'ai une prophétie du Seigneur, tu resteras seulement 2 ans. Non, c'est lui qui est seulement resté 2 ans. Qui est parti après 2 ans. Moi, ça fait 18 ans. Lui est parti, moi je suis resté. Amen. Parce que si on t'appelait, si on est appelé, il va nous donner la force pour continuer. OK, on va continuer. Il parle de l'époque des juges. Je n'ai pas besoin de vous répéter ça. Vous connaissez toute la parole. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Est-ce que c'est comme ça à Las Vegas? La réponse est oui. Tout le monde fait comme s'il me semblait bon. Ici en France, les gens sont un peu indépendants. Ils font qu'est-ce qu'ils veulent, peut-être? Tu peux pas leur dire quoi faire? Peut-être. Vous connaissez mieux ça que moi. C'est quoi la qualité de base d'un leader efficace? Le Seigneur appelle aujourd'hui des gens comme Déborah, comme Gédéon, comme Tola, Yahir, Jephthé. Le Seigneur vous appelle à être des leaders qui vont changer la francophonie. Est-ce qu'on peut déclarer, et sans être orgueilleux, sans se sentir... Et même dans l'Église, on a pris une fausse humilité. Dans l'Église, on n'a pas le droit de dire des choses comme ça. Je vais être un leader que le Seigneur veut utiliser pour changer la France. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je veux être un leader que le Seigneur veut utiliser pour changer la francophonie. Non, c'est vrai. Dans l'Église, on a appris aux gens de ne pas dire des choses comme ça. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour une autre. Même quand les gens vont bien, font bien à l'Église, ils ne savent pas comment accepter d'être affirmé ou d'être honoré. Vous avez déjà vu ça dans l'Église? Peut-être pas ici en France, mais chez moi. C'est parce que chez moi, qu'est-ce qu'on a appris au collège biblique? On a appris ça. Quelqu'un va être ici, il va jouer le piano, ils vont chanter. Ça fait 10 ans qu'ils pratiquent. Ça fait 2 mois qu'ils pratiquent cette chanson-là. Ils viennent devant l'Église puis ils chantent une chanson comme des anges. Tu viens leur dire, « Hey, Suzanne, j'aimerais te remercier. Tu as vraiment bien fait. C'était incroyable. » Et qu'est-ce qu'on a appris à dire? « Non, non, non. C'est tout Jésus. » Tu sais qu'est-ce que je leur dis? Juste pour montrer comment c'est stupide. C'est comme si c'est une fausse humilité. Je leur dis, « Oh, je m'excuse. Je pensais que c'était toi. » C'est toute la tâche de Jésus qui il a pratiqué pendant 10 ans, il a pratiqué les chansons, c'est lui qui l'a fait. Ah, je m'excuse. Je te demande pardon. C'est ridicule. Mais on a de la misère à être affirmé ou à être honoré. N'est-ce pas? Et même des fois, les femmes, est-ce que vous avez dit, les femmes ici, je veux pas être dur sur vous, mais est-ce que ça arrive des fois où quelqu'un te dit, tu es très belle aujourd'hui. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Non, j'ai pas eu la chance de vraiment faire mes cheveux ce matin. Non. Les femmes mariées, est-ce que peut-être c'est arrivé que ton mari te dit, oh chérie, tu es tellement belle aujourd'hui. Et toi, tu as répondu, non, regarde mes fesses. Elles sont trop grosses. Grosses. Regarde mon nez, regarde mes oreilles. On a accepté, on a appris comment pas accepter des compliments. Comment même, c'est tellement drôle. Eric, j'étais au pastoral de Grenoble et j'ai regardé un des frères et je disais qu'il était beau devant 400 pasteurs et leaders. Il est beau, hein? J'ai regardé les cheveux, regardé la tête. Et lui, il a dit, tu te moques de moi? devant tout le monde. J'ai dit, non, mon frère, honnêtement, je disais que t'es beau. Je te trouve beau. Je te trouve quelqu'un de sympathique. Mais il y avait de la misère à l'accepter. Est-ce qu'on se donne beaucoup de compliments ici en France? Est-ce que peut-être votre congrégation vient tous les dimanches, « Pasteur, je voudrais te dire combien je t'aime. » Pasteur, c'est quoi ton nom?
Vanda.
Vanda? Quel bon nom, Vanda. Wow, c'est comme quelqu'un de, un millionnaire, un vedette de Hollywood. Vanda, j'aime ça. C'est vrai, hein? J'aime ça, Vanda, wow. En tout cas, est-ce que les gens disent tous les dimanches, Vanda, j'aimerais juste te dire merci pour tout ce que tu fais pour l'Église. Tu es tellement une femme incroyable. Je veux simplement t'honorer. Tiens, je veux donner 2000 euros juste pour aller en vacances avec ton mari. Oh, c'est pas ton mari. OK, avec ton mari qui est... Ça, c'est pas prophétique du tout, non. Non, c'est... Il est marié déjà. Okay. Oh, t'es veuve, OK. Mais quelqu'un d'autre, peut-être, le Seigneur, on ne sait pas jamais. Mais je prophétise pas, je veux pas. Mais c'est quand même un beau nom, Vanda. OK, les qualités de leader efficace. Oh là là, oh là là, j'aime ça en français, oh là là. Il identifie un besoin. Alors, c'est quoi les traits d'un leader efficace ici en France? Vous reconnaissez des besoins. Vous signalez des besoins. Vous voyez des besoins. Tommy Barnett, il m'a appris quand j'étais à l'école de formation, trouve un des besoins de ta communauté et satisfais les besoins. Allez répondre à ces besoins-là. Je suis complètement d'accord. Il identifie un besoin. Deuxièmement, quand le leader est pur, il voit les besoins et il y a une passion de votre cœur qui veut répondre à ce besoin-là. Alors, deuxièmement, il a aussi un don. Il a aussi un don. Alors, premièrement, vous voyez un besoin, mais vous répondez avec une passion. Il y a quelque chose qui touche votre cœur. Il y a quelque chose qui vous touche avec les prostituées ici à Paris. Il y a quelque chose qui vous touche. Il y a un jour que je ne savais pas, ma femme, elle a senti de commencer à toucher les prostituées à Las Vegas. On a beaucoup, comme peut-être vous avez beaucoup aussi à Paris. Et ma femme, qui n'a jamais eu l'expérience, quand j'ai marié ma femme, elle était complètement vierge, elle avait toujours été une femme de Dieu. Ma femme est une femme incroyable. Elle n'a pas eu d'expérience dans les centres-villes ou avec les prostituées. Mais un jour, j'étais à New York et je l'appelle. Tard, très, très tard. J'ai dit, chérie, comment ça va? Elle dit, ça va bien. J'ai dit, pourquoi tu ne pars pas tout haut? Parce que je suis dans une vanne, un camion, et je me cache dans un camion. Où ça, tu te caches dans un camion? Elle dit, je suis dans le centre-ville de Las Vegas. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là, chérie? Tu es dans un camion caché dans le centre-ville, qui est très dangereux, hein? Très dangereux, il y a une centre-ville là, très dangereux. Qu'est-ce que tu fais là, chérie? Elle dit, il y a quelqu'un qui nous a appelé. Cette petite fille a été attrapée par un pimp. C'est quoi ça en français? Un prostitué et l'homme...
Proxénète.
Proxénète. Elle dit, une petite fille de 14 ans, je pense, a été attrapée par un proxénète. Et maintenant, elle est prostituée dans la ville de Las Vegas. Et son père m'a appelé de, je pense que c'était de quelque part dans le centre des États-Unis. Et c'était un diacre baptiste. Il a su que notre église faisait un peu de ministère avec les prostituées. Alors, il nous a appelé. Il dit, est-ce que tu peux aller sauver ma petite fille? Ma femme est dans le centre-ville. Elle veut kidnapper la fille qui a été enlevé de cette proxénète. Ma femme, j'ai dit, chérie, t'as pas d'expérience hein, comme ça. Elle dit, je sais pas, il fallait que je le fasse. Alors, j'ai d'autres gens avec moi, aie pas peur. Elle avait une femme qui était prostituée avant. Maintenant, c'est un de nos meilleurs leaders à notre église. Elle dit, je suis avec Michel maintenant. Puis j'ai dit, oui, OK, qui d'autre? Oh, je suis avec Pasquale et Jean. Jean, c'est un gars de mafia de Las Vegas. il est grand, il est même comme chrétien, il est méchant. Puis l'autre, c'était, elle dit, Pasquale est ici aussi. Ah là, je me sentais bien. Tu dis, mais c'est qui Pasquale? Pasquale, c'était un homme qui a été reçu Jésus à notre église. Et après une couple de semaines, il dit, parce que dans ce temps-là, il y avait beaucoup de gens qui voulaient me tuer à Las Vegas, parce que, tu sais, il y a des occultes à Las Vegas, il y a tout ça de mafia, et moi, tu sais, on est nous autres, on sauve les prostituées, il y a des proxyètes qui étaient fâchés. Il y a des gens qui étaient fâchés contre nous autres, puis ils appelaient l'église. Je vais tuer Paul, je vais tuer sa femme, je vais tuer ses enfants. En tout cas, il y a toujours des menaces comme ça. Alors, Pasquale, il savait ça. Alors, Pasquale vient me dire un jour, pasteur, puis il vient juste de devenir chrétien, il dit, aie pas peur. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, je te guette. Garde le corps. Je lui dis, j'ai sourié. Je dis, merci. Il dit, non, tu ne comprends pas. J'ai dit, quoi? Il dit, je vais prendre soin de toi. Je dis, bien, merci. Non, il dit, tu ne comprends pas. J'ai un ceinture noire à karaté, troisième degré. Puis là, j'ai appris aussi, il faisait membre d'un gang à Las Vegas. Et c'était vraiment quelqu'un de féroce. Alors, j'ai dit, OK, merci. Un jour, il y a quelqu'un, j'étais en avant, je prêchais, et tout à coup, quelqu'un commence à courir en avant pour me frapper. Puis Pasquale était juste, moi j'étais juste ici, Pasquale était juste là. Puis l'homme courait vers moi ici, j'ai même pas vu l'homme, parce que tout à coup, Pasquale, l'homme courait ici, tout à coup, Pasquale était allé comme ça. Pouf! Fini les folies. Le gars, il a frappé à terre. J'ai vu le gâteau. Oh, quelle gloire à Dieu. J'ai continué. Il avait un don, ce jeune homme-là. OK. On va remplir les phrases. Un don trouve toujours en lui. Un individu trouve toujours en lui un don. Je peux vous conter des histoires de Pasquale. Aux Indes et aux autres places qui m'ont sauvé plusieurs fois même. Il y a une fois, il y avait 10 000 personnes. Dans l'Inde du Nord. Et tout à coup, ils ont couru vers l'estrade. 10 000 personnes ont couru pour m'attraper. J'ai couru à ma gauche. J'étais rendu l'escalier. Il y avait caché une voiture là pour moi. Et j'ai couru vers la voiture. Tout à coup, il y a une gang qui m'a pris par le bras droit pour me prendre. Et tout à coup, j'ai senti un autre bras à gauche me prendre très fortement, me lancer dans la voiture. Et c'était Pasquale. Il y avait un don. Deuxièmement, dès lors, un leader nourrit et développe ce don. On développe ce don. Troisièmement, finalement, ce don est mis en œuvre dans un service. Tout le monde cherche à servir quelque part. On est rendu à page 7. Tout le monde sert. Veut servir quelque part. Tout le monde. Mon but comme pasteur, c'est de trouver tes passions et tes dons et te mettre dans une position où tu peux servir Jésus. Tout le monde veut servir. Quatrièmement, le don devient une plateforme pour influencer les autres. Vos dons et les dons dans votre église, les gens, c'est pour influencer les autres, non seulement dans l'église, mais dans les affaires. Nous autres, dans notre église, c'est le ministère, c'est pas seulement le dimanche ou dimanche soir ou mercredi. On a 8 cultes le dimanche maintenant. 8. Et durant la semaine, on en a plusieurs aussi. Mais qu'est-ce qu'on croit, nous autres, dans notre église, c'est tout le monde est appelé à servir Jésus et on doit servir dans un des 7 sphères d'influence au monde. Les 7 sphères ou les montagnes, disons. Alors, une des montagnes, c'est les finances. L'autre montagne, c'est les entreprises. L'autre montagne, c'est l'église. L'autre montagne, c'est la famille, en point de vue des familles, les couples et les individus aussi. L'autre, c'est l'éducation. L'autre, c'est les sciences. L'autre, c'est le gouvernement. Il n'y en a plus que 7, mais on parle du fait que le Saint-Esprit veut toucher et on doit former des leaders pour changer notre société et les 7 sphères d'influence. Alors, quand on parle de formation, mon église, on est tous appelés quelque part. Mais il y a des hommes à mon église et des femmes qui sont appelés de travailler dans les entreprises. Et c'est les meilleurs évangélistes, les meilleures personnes que tu pourrais croire parce qu'ils influencent les gens dans la sphère des entreprises. Il y a des gens dans le média aussi. Un des montagnes, c'est le média et les arts. Et à Las Vegas, je vais conter une histoire très vite parce qu'il faut que je termine dans une couple de minutes. Mais à Las Vegas, on a beaucoup de choses qui sont... Vous avez des pancartes alentour de Paris, des pancartes qui vendent des lingeries, qui vendent des cigarettes, qui vendent des journaux. Ici à Las Vegas, on a des pancartes ou des pubs où c'est quoi, 30 mètres ou 40 mètres par 20 mètres. C'est très, très grand. À travers Las Vegas, si vous avez déjà été là, il y a une qui c'était pour les Chippendales. Vous connaissez les Chippendales? C'est des hommes qui dansent comme tout nus, ils chantent, ils dansent. En tout cas, le gars principal à Las Vegas, c'était un renommé Brian. Brian, tout le monde connaissait Brian parce qu'il imagine, 30 mètres par 20 mètres, pancarte à travers la ville de Las Vegas. Il chantait, il dansait, il faisait tout ça. Un jour, il vient à notre église. Et moi, je ne connaissais pas les Chippendales. Alors, après chaque culte, on a une chambre de VIP. C'est les visiteurs à l'église. On les invite de, tiens, on veut vous dire bonjour, on veut serrer la main, vous connaître, et peut-être vos enfants, si vous avez des enfants. Viens voir, on a des cafés, on a des fruits, on a des biscuits. Et c'est simplement un temps de me rencontrer, ma femme et notre équipe. On aime beaucoup ça. Et un jour, c'est Brian et ses parents. Et je dis, hey, comment ça va? Comment tu t'appelles-tu? Je n'avais jamais remarqué ça. Alors, il dit, mon nom, c'est Brian. Et ses parents disent, oh, c'est un chanteur. Ah, j'ai dit, ah! J'ai dit, quelle sorte de chanteur? Il dit, je chante dans un des casinos de Las Vegas. Ah, c'est bien. Quel casino? Il me l'a dit. Quel show? Il dit, Chippendales. Ah, j'ai dit, c'est bien. Alors, ses parents disent, oui, on prie qu'il va trouver quelque chose d'autre. Ah, j'ai dit, ah, OK. Alors, plus tard, j'ai remarqué, hey! Chippendales, c'est-tu des danseurs? Des hommes, like, nus? OK. En tout cas, il faisait beaucoup d'argent. Tout le monde le connaissait à Las Vegas. Et même, en tout cas, longue histoire. Un jour, j'aime ça les chansons. J'aime ça chanter, comme vous voyez. Je chante peut-être pas très bien, mais j'aime ça chanter. Et j'aime ça chanter des hymnes, des fois. Mais notre église, c'est plutôt contemporain. On chante beaucoup de louanges très modernes. Alors, un des sacrifices que j'ai fait comme pasteur, j'ai dit, OK, parce que je veux rejoindre la prochaine génération. Alors, il fallait que je change. Alors, j'ai changé. J'aime les hymnes, mais je change parce que je veux rejoindre et transférer pour rejoindre les plus jeunes. En France aussi, il faut rejoindre. Les Élysées sont ici. Les Élys, on est des Élys. Il faut trouver les Élysées. Et en tout cas, un jour, je voulais chanter, je prêchais, je disais, hey, qui se rappelle de cette chanson-là? Puis c'est une vieille chanson, un hymne. Tout à coup, il y a seulement une personne qui savait les mots. C'était Brian. Parce que Brian était chrétien, il avait été au collège biblique, mais c'était un rétrograde. Il y a une personne, puis j'ai des milliers de personnes, hein, une personne qui lève la main qui connaît cette chanson. J'ai dit, mais viens ici, Brian. Viens prendre le microphone et chante cette chanson-là. Il commence la chanson et tout à coup, tu vois, il commence à pleurer. Il commençait à être touché par le Saint-Esprit. J'ai commencé à prophétiser. Le Seigneur va t'utiliser pour toucher des milliers d'âmes. Je commençais à vraiment proclamer des bonnes choses dans sa vie. Et tout à coup, c'était incroyable. C'est comme il a été délivré complètement ce jour-là quand il chantait. Alors, je lui dis après, il savait, il était très ému. J'ai dit, est-ce qu'il y aurait un temps où peut-être on pourrait s'asseoir prendre un café? Il dit oui. Alors, on a rencontré cette semaine et peut-être la semaine après, j'ai dit, Brian, est-ce que tu as déjà senti que peut-être tu devrais laisser The Chippendales? Il m'a dit ça. C'est tellement drôle que tu me dis ça. Je pense à ça beaucoup dernièrement que peut-être je ne devrais pas laisser, mais j'ai un grand contrat, je fais beaucoup d'argent. Il dit, mais c'est drôle que tu dis ça. Mais j'ai dit, et ça vient de Dieu. Le fait que tu sentais déjà que tu devrais partir, ça vient de Dieu. Il dit, oui. J'ai dit, oui. J'ai dit, quand est-ce que tu veux partir? J'ai dit, je ne sais pas. J'ai dit, on va prier ensemble. Et je peux prier que le Seigneur te montre. Pourquoi? Parce qu'on veut changer le média. Finalement, il a tout laissé. L'argent, le contrat, toute la popularité à Las Vegas. Et vous dites, qu'est-ce qu'il a fait après ça? Il a commencé à faire des comédies musicales à notre église. On a des comédies musicales. La dernière, on a 400 personnes ont été sauvées durant notre comédie musicale. On a fait 7. Et 400 personnes ont reçu Jésus. Et 110 ont été baptisés. Est-ce qu'on peut donner la gloire à Dieu? Yeah. Mais Brian, il a reçu l'appel de Disneyland. Et maintenant, il fait un grand show qui est totalement correct, totalement bien. Et c'est un des grands vedettes à Disneyland au Floride. Est-ce qu'on peut donner la gloire à Jésus? On veut toucher les 7 montagnes! On veut influencer! OK, il a un don. Troisièmement, il est animé d'une passion. Si vous êtes leader, touchez les passions dans votre cœur, les fardeaux, les convictions, des dons, des besoins et des opportunités. Alors, il y a 5 choses juste là. Il est animé d'une passion. Je suis une personne passionnée. Les gens qui me demandent, pourquoi tu parles comme ça? Parce que je suis passionné. Je crois. Parce que ma passion peut convaincre les gens. Au moins, ils vont le respecter. Au moins, ils vont dire, pourquoi qu'il est comme ça? Pourquoi qu'il y a ce feu dans sa vie? Parce que j'ai cette passion pour les âmes. J'ai cette passion pour l'Église ici en France. J'ai les passions pour les âmes qui ne sont pas sauvées. La passion vient quand les facteurs complémentaires, si après, sont réunis. Des fardeaux. Vous avez vu des fardeaux des fois? Ah, je sens des fardeaux pour les pauvres. Ça, c'est des fardeaux. Des convictions, vos valeurs. On va parler beaucoup de ça dans les semaines qui viennent et les années qui viennent. Les dons, comme j'ai déjà mentionné. Quatrièmement, des besoins. Dans votre communauté, est-ce qu'il y a des besoins? Demandez au Seigneur de t'aider, de répondre aux besoins de ta communauté. Les églises qui franchissent différents niveaux de succès, ici en France et à travers le monde, c'est des gens qui voient des besoins et répondent aux besoins. Que ce soit la nourriture, que ce soit l'amour, que ce soit la relation d'aide, et finalement, des opportunités, l'occasion pour vous de vous impliquer et de vos gens. Quatrièmement, il persuade d'autres. Vous regardez Gédéon, quand le Seigneur l'a appelé, il a trouvé 10 de ses amis. Il a dit, aide-moi à détruire les idoles de mon papa et de notre ville. Vous vous rappelez de ça? Et après ça, c'est le seul homme que j'ai jamais vu qui a convaincu, qui a recruté plus de leaders qu'il avait besoin. Vous savez l'histoire, il y avait quoi? 20 000 qui a recruté et à la fin, le Seigneur dit non, utilise seulement 30. C'est le seul homme que j'ai jamais entendu parler que le Seigneur dit non, tu as trop de personnes qui vont t'aider. J'aimerais avoir ce problème-là. Amen? Alors, il persuade d'autres. C'est pour ça, la prochaine étape, au mois de quoi? Octobre? Au mois d'octobre? Session 2, je vous lance un défi. Invite 2 autres personnes de venir avec toi. Je pense qu'il y a 7 personnes de top chrétiens ou 8 personnes de top chrétiens. Ça, c'est un bon exemple d'un leader. Ne faites jamais rien tout seul. Je me rappelle, il y a plusieurs années, peut-être il y a 14 ans, le Seigneur m'a parlé un jour parce qu'il parle à ma tête, pas à mes oreilles. Il m'a dit, Paul, tu formes beaucoup de gens à travers le monde, mais ta femme, qui forme ta femme? Et qui forme tes enfants pour être leader? Il m'a dit dans ma tête, c'est ta responsabilité, Paul. Je t'ai mis en charge de ta famille. C'est à toi de les former comme leader. Alors là, ma philosophie de vie a changé. Il fallait premièrement que je prenne ma femme pour lui donner des chances et le former en leadership. Je l'ai amené partout pour avoir ces expériences-là. J'ai amené mes fils, mes enfants. Tous mes enfants ont été aux Indes. Tous mes enfants ont nourri les malades, ils ont nourri les gens qui avaient faim. Tous mes enfants sont impliqués dans le ministère. Maintenant, tous mes enfants servent Jésus, sont tous impliqués dans le ministère. Amen. Mais c'est parce que j'ai reçu la confrontation de Dieu dans ma tête. Paul, c'est bon que tu aies une bonne église, mais ta femme et tes enfants. Mais je ne sais pas la condition des familles qui sont dans le ministère ici en France. Mais je te dis, aux États-Unis, il y a des problèmes. C'est pour ça que j'ai écrit le livre sur la famille transformée, parce que la plupart des pasteurs et des grands ministères que je connais, leurs familles sont... Les mariages... Je peux vous dire, puis j'en connais, je ne veux pas les mentionner, parce que je ne suis pas venu ici pour les ridiculiser, mais je vous dis, j'en connais beaucoup de ces leaders-là, et malheureusement, leur mariage et leurs enfants sont foutus, parce que la personne a mis le ministère avant le mariage et avant les enfants. Première priorité, c'est ça. Deuxième priorité, c'est toi puis ta femme ou ton mari. Troisième priorité, c'est tes enfants. Quatrième priorité, c'est tes petits-enfants. Cinquième priorité, c'est ton église. C'est les leaders de ton église. Trouve les leaders. Jean Maxwell dit quelque chose de très bien. Il dit, on devrait mettre 80% de notre temps, qui n'est pas avec la famille, on devrait le mettre à former, à aider, à motiver, à toucher la vie de leader. Tu seras plus efficace si tu te mets 80% de ton temps simplement dans tes leaders. Moi, je passe la plupart de mon temps, je recrute, je trouve, je recrute. Alors, est-ce qu'on peut écrire ça si vous voulez? Moi, pour moi, ma vision, c'est je trouve des leaders que je peux former. Alors, je dois les recruter, je dois les former, je dois les motiver, je dois être un exemple et je dois les laisser donner de l'autorité et donner la chance de vraiment vivre les dons que le Seigneur a mis dans eux. Donc, c'est pas bang, bang, bang. Je suis toujours en train de penser à ça. C'est ça que Gédéon a fait. Et cinquièmement, il poursuit un objectif. Il poursuit un objectif. Il poursuit un objectif. Est-ce que votre vision est très claire? Une des choses que j'apprécie avec beaucoup cette formation-là, ça m'a aidé à clarifier les visions de notre église. Tu te demandes à n'importe qui dans mon église, c'est quoi la vision de l'église? Ils vont te le dire. 2020. Ben, c'est quoi 2020? C'est la vision de notre église, c'est d'établir 2000 églises par l'année 2020. Ça fait à peu près 9 ans qu'on a cette vision-là. Vous dites, ben, est-ce que vous faites du progrès? Mais maintenant, à peu près 900 églises ont été établies. 900. Oui, amen, hein? Je donne la gloire à Jésus. Mais 900? Mais je ne l'ai pas faite. Mon but, c'est de trouver des leaders, de me verser, de les aider, de les aimer comme un frère ou une soeur, et de dire, vas-y. Et il y a une église qui a déjà commencé 900, mais les autres églises qu'on a adoptées et qu'on aide, eux autres, ils ont commencé à peu près un autre. Alors, on est à peu près maintenant à 1000. Mais c'est simplement à trouver des gens. Et qu'est-ce que je dis en France? C'est, je finis avec toi, avec vous, comme un frère, comme un ami. Et ensemble, je crois qu'on va vraiment avoir un réveil de... On va planter des églises, on va toucher les vies des gens, on va gagner des hommes, on va former des disciples et on va former des leaders pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. OK. Je vous demande une couple de questions. Et j'aimerais que vous mettiez en groupe de 2 ou 3. OK? Parce qu'on va vraiment prendre une couple de minutes d'application et de vraiment assimiler l'information. De se connaître un peu, parce qu'une des choses qui est incroyable à travers de cette formation-là, après 3 ans, on se connaît très bien. On se connaît. On va s'entraider. Noir, blanc, brun, rose. On va s'entraider ici. On va se connaître. Hey, mon frère baptiste. Hey, mon frère pentecôtiste. Hey, ma sœur évangélique. Oh, ma sœur réformée. On va s'entraider. On va s'aimer. On va s'unir. Comme l'Église ici en France. Et on va s'honorer. C'est le temps de vraiment l'honneur. L'honneur devrait couler. Regarde ton ami maintenant et dites-leur, je veux t'honorer. Dites-leur, je veux t'honorer. Je veux t'honorer. Première question. C'est quoi les besoins dans ta communauté, c'est quoi les besoins que vous voyez dans votre communauté? Y a-t-il quelque chose que vous voyez? Vous dites, oui, il y a des besoins, il y a des gangs ici à notre communauté. Il y a des problèmes de morale, il y a des problèmes, n'importe quoi que tu sens dans ton cœur. Besoin. Deuxième question. C'est quoi vos passions? Vous êtes passionné de quoi? Vous êtes passionné de quoi? Qu'est-ce que vraiment, peut-être même en temps de prière, vous pleurez? Vous pourrez pleurer pour les prostituées ou pleurer pour le manque de leaders dans le corps du Christ. C'est quoi votre passion? Troisième question. Quel est votre don principal? Quel est votre don principal? Et pas de fausse humilité. C'est temps de souligner un de vos dons. Dites pas, « Oh, j'ai pas de dons. » Non, tu as beaucoup de dons. Et cinquièmement, quatrièmement, quels sont vos intérêts en termes de leadership? Quels sont vos intérêts? Pourquoi vous êtes ici? Pourquoi vous avez décidé de venir à une formation de John Maxwell? Moi, je sais pourquoi je suis ici. Il m'a appelé de le faire, il m'a demandé de le faire, et j'ai répondu parce que déjà, j'ai senti besoin dans le corps du Christ. Il y a besoin de leaders. Il y a besoin de leader. Il n'y a jamais un manque d'argent. Le vrai manque dans le corps du Christ, c'est des leaders. Si tu as des leaders, toutes les autres choses vont être répondues. Je crois avec tout mon cœur dans ça. Alors, il y a quatre questions. J'aimerais que vous mettiez en groupe de deux, trois, même quatre si vous voulez. Tournez vos chaises et j'aimerais que vous gériez ces quatre questions-là. C'est très simple. On va juste avoir ce temps de vraiment partager notre cœur avec nos amis, commencer à développer des relations importantes. Groupe de deux, trois ou quatre. Allez-y!